dire, saturé de paroles. Ça va, ça va. Oui, alors le thème, c'est la volonté de Dieu, mais je vais encore me relier à ce qu'a dit ce matin Gianluca. Donc, dans ce tableau qu'il nous a présenté, donc en Saint-Luc, de Jésus et la pécheresse et Simon, nous avons, je crois, une des choses qu'on a pu déduire, c'est donc que Dieu a besoin de notre amour. Il n'est pas neutre par rapport à notre réponse d'amour. Il est heureux si notre amour ressemble au sien, c'est-à-dire s'il est créatif. De même que Dieu cherche l'homme, il est heureux si l'homme cherche Dieu. De même que l'amour de Dieu est, on pourrait dire, un peu fou, il nous donne tout en abondance, en surabondance, jusqu'à son sang sur la croix, dans l'Eucharistie, etc. De même, le nôtre peut être aussi un peu fou, par exemple, le parfum très coûteux. De même que l'amour, c'est un risque, toujours, de ne pas être compris, et Dieu a tout risqué en nous créant libres, de même, notre amour pour lui est un risque. Notre réputation, le qu'en dira-t-on, le respect humain qu'on met de côté pour l'aimer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde le plan de Dieu, on peut dire que nous sommes nécessaires à Dieu d'une nécessité d'amour. Et c'est Chiara qui nous l'a dit, qu'il dit dans un moment où elle le comprend, elle dit « Nous croyons à l'amour de Dieu à tel point que nous croyons qu'il a besoin de nous dans son dessein d'amour. » Il se fait en quelque sorte mendiant de notre amour. Et parce qu'il nous veut fils comme le Fils qui est éternellement engendré, qui se reçoit tout entier du Père et se redonne tout entier au Père. Il nous veut dans ce dynamisme et cette réciprocité qui est celle de Dieu, de l'amour éternel entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Tout cela, c'est ça la volonté de Dieu. En dernière analyse, on pourrait dire c'est ça. C'est cette réciprocité entre Dieu et nous, entre nous et Dieu. C'est sûr que quand j'ai lu pour la première fois ce passage qui a tellement motivé Gianluca, tout de suite me sont venus en relief des passages parallèles dans l'Ancien Testament. Des passages presque aussi forts qui illustrent, je ne sais pas si tu les avais mis là, mais parce que Jésus n'est pas venu abolir la première alliance, mais l'accomplir. Et il me semble que cet épisode, justement, de Jésus, la pécheresse et Simon, est exactement l'accomplissement de ce qu'ont dit les prophètes de la part de Dieu. Significatif à cet égard, le premier chapitre d'Isaïe, qui témoigne de l'horreur que Dieu éprouve pour un culte qui n'est pas accompagné de l'amour. Et alors là, écoutons-le parce que c'est très fort. « Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur. Les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous tendez les mains vers moi, je me détourne. Cessez d'apporter de vaines offrandes. La fumée, j'en ai horreur. Néoménie, sabbat, convocation d'assemblée, je n'en puis plus des fêtes. Quand vous étendez les mains, je me voile les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Mettez au pas l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Mais il y a toujours un mais, parce que il se repent de ce qu'il a médité. Et il ouvre une table de conciliation après les menaces. Quand même. Après avoir dit qu'il a en horreur les sacrifices, qu'il est fatigué des hypocrisies, c'est-à-dire le culte qui vient en avant et l'injustice qui est derrière, il ajoute « Venez, parlons, dit le Seigneur. Même si vos péchés étaient rouges comme l'écarlate, comme neige, ils deviendront. » Il ouvre la possibilité de recommencer. Et je pense que Jésus a éprouvé cette miséricorde envers Simon, le pharisien. Simon n'était pas loin du royaume de Dieu. Bien sûr, il a jugé selon ses critères. Il a dit « cet homme ne peut pas être un prophète ». Mais il semble prêt à les remettre en question. La délicatesse de Jésus envers lui, le fait qu'il lui dise « avec calme, j'ai quelque chose à te dire », le fait qu'il croit aussi à sa bonne foi, parce qu'il ne le ferait pas raisonner s'il n'y croyait pas, il me semble que c'est un peu comme s'il lui disait « venez, parlons, même si vos péchés étaient rouges comme l'écarlate, comme neige, ils deviendront ». Et la pécheresse, elle ressemble au fond, comme deux gouttes d'eau, à cette femme dont parle le prophète Osée, qu'il prend, que Dieu lui demande de prendre comme femme pour donner comme un exemple visible, vital, de l'amour de Dieu. Dieu lui demande d'aller prendre une prostituée, une femme qui se livre à la prostitution, pour qu'il l'épouse. Et puis, elle lui donne un fils et une fille. Et le prophète appelle respectivement ses enfants sur ordre du Seigneur, la fille non aimée, tu n'es pas aimée, et le fils est appelé pas mon peuple, tu n'es pas mon peuple. Cette femme que le prophète épouse est l'icône du peuple aimé de Dieu. Car de même que la femme du prophète n'a cessé de courir après ses amants, même une fois qu'il l'a épousée, croyant qu'ils vont la combler de bien, de même, le peuple a couru derrière des faux dieux. Et Dieu, par la bouche du prophète, s'indigne et veut se venger. Je vais dévoiler sa honte. Je ferai cesser toute sa joie. Je dévasterai sa vigne. Mais au verset suivant, il se repent. Non, je vais la séduire. Je vais la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Cette femme a éprouvé l'amertume. Elle a constaté que ses désirs étaient toujours inassouvis et que même il la rendait malheureuse. Elle a compris d'avoir été exploitée et avilie par ses amants qui ne lui ont laissé que dégoût. Mais au plus fort de sa déchéance, elle a été séduite, aimée gratuitement, infiniment respectée par Dieu, rétablie dans sa dignité. Dieu dit par la bouche du prophète, « Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, et tu connaîtras Yahvé. » C'est la pécheresse de l'Évangile, c'est cette femme dont on ne connaît pas le nom, qui a trouvé en Jésus un amour nuptial, mais aussi un amour paternel et maternel. Je voudrais dire encore deux mots de cet amour maternel de Dieu, qu'on trouve dans l'Ancien Testament. On n'y pense pas souvent, mais il y a quand même des mots qui expriment la tendresse de Dieu, et on trouve en particulier deux mots, un qui s'appelle Hesed, et qui signifie plutôt le caractère de fidélité de Dieu, sa tendresse, mais fidèle à sa parole, et responsable de son amour. Et puis, on a un autre mot qui s'appelle Rahamim, qui évoque plutôt l'amour maternel, puisque c'est le sein maternel, Rehem. Donc, c'est un lien profond entre la mère et l'enfant qui instaure une relation toute particulière entre la mère et l'enfant, un amour totalement gratuit, qui ne dépend pas du mérite de l'enfant. C'est une exigence intérieure de la part de la mère, une exigence du cœur. Donc, sur cette base d'amour maternel, donc ce sein maternel, cette tendresse qui émeut Dieu au plus profond de ses entrailles comme une mère, eh bien, se produisent toute une gamme de sentiments, la bonté, la tendresse, la patience, la compréhension, la promptitude à pardonner. Donc, c'est par un mot emprunté au domaine du corps humain que l'Ancien Testament nous indique comment Dieu nous met en sécurité et nous témoigne un amour de compassion. Encore dans le prophète Osée, on lit « Non, je ne donnerai pas acte à ma fureur, à ma colère, parce que je suis Dieu et non pas homme. » Donc, j'ai cet amour maternel. Donc, c'est la fidélité de Dieu, sa tendresse de mère en dépit de toutes les infidélités du peuple. Et c'est vrai que la théologie met en lumière ces dernières décennies un peu cet aspect maternel de l'amour de Dieu. Les pères de l'Église, ils avaient tellement forte devant eux cette image de que Dieu ne peut pas souffrir, qu'il est impassible, qu'il était difficile pour eux d'exprimer cet aspect maternel. Et pourtant, ils se rendaient compte que la révélation remettent en cause tout ce que le monde avait conçu de la divinité. Ils ont compris qu'en Dieu, il existe une passion intime, qui est sa nature même, l'amour. Aucune souffrance ne lui est étrangère. Même celle, notre souffrance, quand on va en dehors, quand on va chercher quelque chose en dehors de lui et qu'on ne trouve que des déceptions. C'est sûr que les personnes les plus sensibles à cet aspect maternel de l'amour de Dieu, ce sont les mystiques. Et les mystiques qui rencontrent Dieu intimement, donc à qui, en quelque sorte, Dieu se révèle dans un cœur à cœur. Eckhart, par exemple, écrit « Dieu nous caresse comme une maman ». Et Maurice Zindel, ce théologien suisse qui est au fond de notre contemporain, presque contemporain, et que Paul VI définissait comme un génie spirituel, il écrit « Dieu est plus mère que toutes les mères. Il est la mère au sens absolu. Il nous aime d'une tendresse unique, incommunicable. On peut dire « maman à Dieu » toujours. » Mais il me semble que c'est aussi au pied de la croix que nous comprenons le mieux l'amour de Dieu et que nous avons envie d'y répondre. Et d'ailleurs, l'épisode dont Jean-Luc nous parlait ce matin, il est reporté dans l'évangile de Jean. Et la femme a un nom, c'est Marie-Madeleine. Et Jésus dit, laissez-la faire parce qu'elle le fait en vue de ma sépulture, comme si cette pécheresse, elle s'était agenouillée au pied de la croix et elle avait envoyé ce parfum sur Jésus, moribond ou mort. Donc, au pied de la croix, on comprend l'amour de Dieu pour nous, un amour aussi qui nous engendre comme une mère, hein, maternelle, mais aussi paternel et fraternel, puisqu'il devient le premier-né d'une multitude de frères et nuptial. Et tout cela nous éclaire sur le fait que l'amour de Dieu est un commandement, le premier commandement. Tu aimeras Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Tu aimeras, on sait, hein, ça c'est bien l'Ancien Testament, mais Jésus le reprend, c'est le premier et le plus grand commandement. Comment peut-on commander d'aimer? On peut se demander. À la lumière de cet amour de Dieu, paternel, maternel, nuptial, le premier commandement d'aimer, c'est un ordre, c'est vrai, mais ça devient un désir du cœur. Dieu nous aime avec une telle gratuité que ce n'est pas un devoir de l'aimer, mais une possibilité, une grâce. de pouvoir l'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, y compris de notre intelligence, de toutes nos forces. Alors, parce que Dieu devient pour nous une personne vivante qui a tissé en nous des liens d'amour, avec nous et en nous des liens d'amour. Au fond, l'aimer en retour de son amour, comme cette pécheresse, ce n'est pas onéreux, ce n'est pas coûteux. On voudrait même pouvoir l'aimer, pouvoir rivaliser avec lui. À sa folie d'amour peut répondre la folie de notre amour. Risquer, perdre notre réputation, notre chrétiennement correct, ne pas craindre le risque. Cette pécheresse aime à la folie, elle ne tient pas compte du qu'en dira-t-on. Et encore, je reviens à Chiara Lubich qui pousse presque un cri, dit non, devoir aimer Dieu, non, pouvoir aimer Dieu avec ce petit cœur qui est le nôtre. Même si c'est fort, je voudrais vous donner un témoignage justement de cet amour que Chiara Lubich et ses premières compagnes avaient pour Dieu. Et ce soir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais même ceux qui l'ont vu peut-être seront contents de revoir, on a un film sur les premières années de quand ce charisme de l'unité jaillissait avec une force vraiment impétueuse, presque impossible à y résister. On a un film qui nous montrera. Mais je vous donne cet exemple. C'est une lettre qu'elle écrit à une amie. Et cette lettre commence comme ça. « Je suis allée voir Alba Ferri, morte. La morte ne m'a pas impressionnée. En revanche, ce qui m'a parlé, c'est la mort. » Je me suis vue froide, glacée, uniquement capable d'être consumée par les vers de la terre, inerte. J'en ai eu un nœud à la gorge. Mon Dieu, ne plus avoir un seul degré de chaleur de vie à te donner, ne plus avoir un gramme de force à consumer pour toi, avoir l'esprit aveuglé, et ne plus pouvoir te chercher librement, partout, afin de pouvoir te redonner mon cœur. Mon Dieu, mon Dieu. Vraiment, ça m'a interrogée. Personnellement, devant un mort, je n'ai jamais eu cette réflexion. Il ne peut plus aimer. Il ne peut plus aimer. Et moi, je peux encore aimer. C'est sûr, j'ai pensé que mourir, ça voulait dire tout laisser, être prête à tout laisser. Ça voulait dire aller au paradis, ça voulait dire voir Jésus. Mais je n'ai jamais pensé à l'impossibilité de ne plus pouvoir aimer Dieu. C'était donc une telle force pour elle, c'était sa vie de pouvoir aimer Dieu, non pas de devoir aimer Dieu, de pouvoir aimer Dieu, qu'à l'idée de ne plus pouvoir le faire, elle en a un nœud à la gorge. Et il me semblait que dans la phrase qu'elle cite, il y a vraiment l'amour de tout son cœur, de toutes ses forces et de tout son esprit. Parce qu'elle dit ne plus avoir un degré de chaleur de vie à te donner. Parce que l'amour, c'est vraiment de donner. Hein, donc, de tout son cœur, ne avoir plus un gramme de force à consumer pour toi. De toutes ses forces, au prix de les perdre, hein, de les perdre. Avoir l'esprit aveuglé, donc de toute mon intelligence, et de ne plus pouvoir te chercher librement, partout, pour te donner mon cœur. Donc, pour moi, c'était vraiment l'illustration parfaite du premier commandement, mais c'est un peu fort. Hein? Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces et de tout son esprit. Parce qu'aimer, c'est donner, c'est se donner et c'est donner. Les commandements ne sont pas un fardeau imposé. Ils sont la figure concrète de la grâce. Il nous fit grâce, ce matin on disait, non ? Car c'est une grâce de connaître la volonté de Dieu exprimée par ses commandements. Connaître la volonté de Dieu, c'est se connaître. C'est comprendre, c'est savoir où aller. C'est être libéré des ténèbres, de nos infinies interrogations. La lumière est venue, sans laquelle nous ne pouvons ni voir ni marcher. Pour Israël, la loi, les commandements, c'est la manifestation de la vérité. Tu vois clair. La manifestation de la face de Dieu est dès lors la possibilité de bien vivre. Alors, on va remarquer, on l'a déjà un petit peu, on a fait allusion, que les commandements, l'amour de Dieu, en retour de son amour, ce premier commandement, il se traduit toujours, toujours, toujours en amour du prochain. Voici le culte que je veux, briser les chaînes des prisonniers, donner à chacun son dû. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang, lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Et encore, il y a un passage magnifique du livre d'Isaïe où il explique quelle est la vraie religion qui plaît à Dieu. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est de dénouer les liens qui proviennent de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ployaient, partager son pain avec l'affamé. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, ton rétablissement s'opérera très vite. Si tu te mets à aimer ton frère, ta lumière jaillira comme l'aurore, tes forces reviendront très vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera ta marche. Alors, si tu appelles, si tu aimes ton frère, tu appelles, le Seigneur te répondra, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière à midi. Non seulement, mais, ça m'a semblé magnifique, tu seras donc, tu appelleras et le Seigneur dira, immédiatement me voici. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu créeras des ponts, des liens, tu seras celui qui répare les brèches, tu ouvriras des chemins, tu remettras en service les chemins. C'est notre réalisation humaine d'être comme un jardin toujours irrigué, une lumière pour les autres, un réparateur de brèches, quelqu'un qui ouvre des chemins. Mais, bien sûr, ça c'est encore l'Ancien Testament. Déjà, c'est beau parce qu'on est une lumière pour les autres. La gloire de Dieu marche derrière nous. Mais le Nouveau Testament, Jésus va encore plus loin. Il veut que nous soyons fils comme il est fils. Et ça, c'est Matthieu qui nous le dit au chapitre 5, versets 43 et suivants. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et les méchants, tomber la pluie sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes en font tantôt. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens en font autant. Vous, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. pour vivre en fils de Dieu, Jésus nous lance un défi. Pour vivre selon ce que nous sommes. Ce défi, c'est le Père qui fait pleuvoir sur les bons et les méchants, briller son soleil sur les bons et les méchants. Aimer comme le Père aime. Et la mesure, c'est l'ennemi. Peu auparavant, Jésus avait dit, sans référence à l'amour du Père, mais c'est dans le même ordre d'idée, il faut donner largement. Si on nous demande, il faut donner largement. Si on te demande ton manteau, donne aussi ta tunique. Si on te demande d'accompagner pour faire un kilomètre, fais-en deux. Et alors le comble du don, c'est quoi? C'est de faire comprendre à celui qui demande qu'il ne sera pas débiteur envers moi. C'est moi qui suis débiteur envers lui. Parce que non, ça me rend service de faire ça. Tu vois, ça me débarrasse de te donner ça. Ça vraiment, je ne savais pas quoi en faire. Et alors, nos relations avec le prochain ressortent transformées. Entre parenthèses, Sainte Thérèse de Lisieux disait que quand les carmélites n'avaient pas grand-chose, mais quand on lui demandait quelque chose, elle disait, elle faisait comprendre qu'elle était bien débarrassée. Tant que la mesure n'est pas nos ennemis, tant que nous allons vers ceux qui nous aiment, nous approchons ceux qui ont notre confiance et ceux qui nous ont confiance, nous croyons marcher en sécurité, c'est une illusion. Les païens en font autant. Si nous ne cherchons pas celui ou celle dont la présence peut-être n'est pas gratifiante, alors nous ne sommes pas encore chrétiens. Mais si nous le faisons, nous voilà dans la communion et nous voilà dans la sainteté. Regardons un instant la mosaïque. Ça, on se repose un peu. Regardons ces mains qui se tendent vers le Christ mort et ressuscité, tous orientés vers lui. Et d'ailleurs, là en dessous, il y a des mains qui se tendent. C'est des mains de personnes qui ne savent pas qu'ils tendent vers le Christ, mais qui tendent quand même. C'est une foule qui se presse et se resserre vers son centre, aimantée par le Christ, avide d'amour, avide de foi, avide d'être secourue, qui désire au fond ressembler au Christ, boire à sa source, comme une forêt de mains qui s'élève vers lui, comme un soleil d'où partent des rayons. Les mains se tendent vers celui qui est le premier-né d'entre les morts. Tous veulent venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. Même la mère de Jésus, la mère de l'Église, même les saints déjà parvenus dans le cœur de Dieu sont attirés, aimantés par le Christ, principe et terme de toute sainteté. Sainte Émérence, martyre, elle est l'emblème de la réponse de l'amour à l'amour. Marie, mère de l'Église, exprime la participation la plus haute à l'amour du Christ, à sa passion, à sa mort, puisqu'elle devient elle-même compassion envers tous les hommes. Et sa compassion se traduit en maternité pour l'Église. Avec cette image sous les yeux, je vous propose de regarder encore un peu l'aventure spirituelle de Chiara Lubich et de ses premières compagnes. Cette aventure a commencé vraiment par le désir de faire la volonté de Dieu, dans l'instant présent, pour observer le premier commandement qui est d'aimer Dieu de tout son cœur. C'était la guerre, le temps pressait, on n'avait pas le temps de dire « j'ai une vie devant moi pour y arriver », il fallait faire vite. Alors, le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, d'aimer son prochain comme soi-même, et comment aimer en faisant la volonté de Dieu, en faisant ce qu'il désire. Et l'évangile qu'elle lisait dans les abris leur a aussitôt présenté un modèle. Comment aimer Dieu de tout son cœur? On n'a peut-être que cette journée, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Ce modèle, c'était Jésus. Et alors, elles se sont dit, mais on peut imiter Jésus, mais pas dans ses actions extérieures, de marcher, d'aller prêcher dans les villages, de guérir les malades, mais dans ce que l'Évangile nous présente de Jésus de plus intime, de plus vrai, de plus profond de son être, c'est-à-dire la volonté du Père, sa relation au Père. On aurait des exemples, mais rappelons-nous quelques-uns de ces versets. « Je fais toujours ce qui lui plaît, non pas ma volonté, mais la tienne. » Et même ce mot très fort, « ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, cette imitation de Jésus dans ce qu'il a de plus intime, elle aussi, elle voulait se nourrir de cette volonté, se revêtir de sa vie, de sa grâce. Et alors, la découverte merveilleuse, c'est que chacune faisait cette volonté, cette unique volonté, même si cette volonté était différente, et qu'entre elles, elles étaient unies. Elles étaient chacune comme un autre Jésus dans l'instant présent. Et c'est ce qui nous unit au-delà de nos différences. Le chemin de sainteté est différent pour tous, mais pour chacun, c'est une volonté particulière de Dieu. J'ai été un jour très frappée par l'expérience d'un monsieur, déjà d'un certain âge. J'ai eu l'occasion dans ma vie de souvent écouter des expériences pour qui devaient par la suite être données dans une journée, dans une Mariapoli. Et c'est un monsieur très simple, marié depuis de nombreuses années, sans enfants. Lui, il était engagé dans le mouvement et donc il essayait d'aimer. Et son épouse n'avait vraiment pas compris que c'était la chose la plus importante. Et donc, il était toujours dans l'attitude d'aimer en premier. Et ça lui coûtait. Comment se fait-il qu'elle ne réponde pas ? Jusqu'au jour où, alors c'était ça son expérience qui m'a semblé d'une telle simplicité et d'une telle sagesse, eh bien, à moi, Dieu m'a fait comprendre que je peux aimer, que je dois aimer. Il ne lui a pas fait comprendre à elle, donc je la respecte dans cette... Et je pense que ça a transformé leur relation, parce qu'il n'attendait plus rien. Il était sûr que lui, il avait cette grâce, il l'avait compris. Elle, elle ne l'avait pas compris. Et il se respectait. C'est une personne avec qui j'ai eu vraiment une relation très profonde. Et j'ai beaucoup admiré et ça m'a aidée dans ma vie de communauté. Comme si chacun d'entre nous, on pourrait prendre l'exemple, et Chiara nous a pris l'exemple du rayon des soleils, chacun d'entre nous marche dans la vie sur un rayon, mais ton rayon n'est pas le mien, mais c'est toujours un rayon de soleil. Nous faisons tous l'expérience d'une seule volonté, celle de Dieu, mais elle diffère pour chacun de nous. De même que les rayons sont du soleil, ils sont tout un avec le soleil, Chiara raconte, de même chacune de nous se sentait tout un avec le frère, avec Jésus, avec le Père. Si bien que, dans notre vie, tout a changé. Quand chacune se regarde comme celle qui fait la volonté du Père, tout change. Et c'est une leçon permanente pour moi, disons. Jusque-là, les différences entre nous prenaient du relief, primaient sur le reste. Ensuite, après s'être centrés sur l'unique volonté, nous nous sentions frères et sœurs. Nous étions un entre nous et avec Jésus, et par Jésus, un avec le Père. Cette volonté de Dieu, elle nous fait un seul corps entre nous et avec Jésus, et par l'intermédiaire de Jésus, avec le Père. Donc, chemin de communion, chemin de sainteté. Voilà. Et là, au fond, ce dont on a parlé, c'est de l'art d'aimer. C'est un art. Et c'est le texte que je vous propose pour la méditation.
Ce qui me gêne dans tous les thèmes sur la volonté de Dieu, y compris celui de Florence, c'est qu'ils ne nous disent pas ce qu'il faut faire. D'accord, ils nous disent, il faut aimer. Mais aimer, c'est un peu flou. Et par contre, je trouve que là, il y a quelque chose de profondément chrétien. C'est-à-dire que c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous suggère la façon d'aimer et qui, en faisant ça, il nous rend libres. Vraiment libre. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose à laquelle on se soumet, mais c'est une expérience de liberté. Et je vous raconte un petit moment de mon histoire, tout petit, parce que j'ai eu la vocation à 16 ans. À 16 ans. Vocation. Viens, suis-moi. Laisse tout tomber à 16 ans. Mais je me disais, mais comment te suivre ? Et j'avais deux possibilités, être dans ma tête, être prêtre ou être focolarino. Non ? Et la première chose que j'ai faite, c'était, bon, je me confrontais avec des personnes plus sages que moi, et je dis, je ne sais pas, donc je vais... Je me jette d'un côté. Je me suis jeté vers le côté prêtre. Donc, je suis entré au séminaire. Et j'ai passé une année au séminaire. Et à chaque fois, il y avait dedans comme un petit... Si je me trompe, je gâche tout. Si je me trompe, je gâche tout. C'était continuel, la chose. À un moment donné, mon père spirituel m'a dit il faut que tu décides. Hein, il faut que tu décides. Tu n'es pas décidé, donc il faut que tu décides. Ben, je ne sais rien. Alors, dis-moi pourquoi. Pourquoi tu devrais devenir prêtre ? Et j'ai dit pour ça, pour célébrer, pour la paroisse, tout ça. Et à chaque fois, il me disait ça, c'est pas une bonne raison. Bon, alors, c'est le focolard. Il me dit, mais pourquoi ? Et je dis, mais pour ça. Et il, ça, c'est pas une bonne raison. C'était un entretien très sympa. À un moment donné, il m'a dit, quelle est ta famille ? Et moi, je sentais vraiment que ma famille, c'était le focolard. Non, c'était là que je me sentais en famille. Et il me dit, bien, alors maintenant tu vas dans ce sens-là, non ? Et je me souviens très bien, c'est ça que je voulais raconter, je me souviens très bien, j'étais devant la porte de cette maison où j'habitais, je priais, je disais le chapelet, et à un moment donné, je me suis arrêté, et une gratitude énorme est descendue dans mon cœur. Et cette question, si je me trompe, je gâche tout, n'existait plus. À dire qu'au fond, la volonté de Dieu, la véritable volonté de Dieu, c'est exactement ce que nous voulons le plus en profondeur. Et nous comble complètement. C'est vraiment une expérience de liberté. Et après, des années après, quand j'ai eu mes crises, parce que j'en ai eu pas mal, je reviens toujours encore, à ce moment-là, à cette gratitude, parce qu'elle est encore là. Elle est encore là.